Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai l'impression que je suis tout seul. Bonjour les amis, bienvenue ici à Connect Grenoble. Si vous nous visitez pour la première fois, c'est une joie pour nous de vous recevoir. Mon nom est Jonathan, je suis un des responsables ici de cette église et on est tellement honorés et bénis de vous recevoir. Cette réunion, elle est ouverte pour accueillir tout le monde. Si vous venez ici, même pour la première fois, si vous êtes incroyant, soyez les bienvenus. Et tout simplement, on va chanter et il y a les paroles qui vont apparaître ici. Et sans plus tarder, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va inviter la présence de Dieu. Je vous invite tous à vous lever et je vous invite juste à fermer les yeux et à tendre les mains au ciel. Alléluia. Ma femme me dit, Dieu est déjà là, c'est nous, juste nous, qu'il faut qu'on saute dans la piscine. Alors exactement, Seigneur, on veut sauter dans la piscine. Combien croient que Dieu était déjà là avant que nous venions ? Et du coup, sans plus tarder, je vous invite à louer, à célébrer le Seigneur. Et c'est comme si on saute dans la piscine. On n'attend pas le deuxième, le troisième, le quatrième chant. Juste, Seigneur, on veut te louer, glorifier ton nom. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel ? Saint-Esprit, nous te prions que tu viennes nous visiter. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commencez à élever votre voix partout là où vous êtes dans ce lieu. Alléluia. Élevez le Seigneur, glorifiez son nom. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu vas faire. Alléluia.
Et nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs par.
Tu peux reprendre ça, nous venons dans ta présence.
Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance. De ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs par sur les toits. Tu as recréé ta puissance, l'amour est ressuscité, toi seul peux triompher. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos passionnés de joie. Tu recrées ta puissance, l'amour ressuscité, toi seul peux triompher. Tu es le créateur puissant.
Peut-être que vous ne connaissez pas, qui parle de la croix. On a fêté Pâques il y a une semaine maintenant, mais c'est bien de rester dans cette ambiance aussi, de la puissance de la croix. Ce chant dit que la croix est toujours puissante. La Bible dit que c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. Amen.
Peace.
racheté.
Racheté au prix de ton sang, mais convaincre ton amour si puissant. Jésus, merci pour cette grâce.
Tu offres à tous. Ça vous dit, on va reprendre les premiers couplets. Parce que pour moi, ça peut parler à tout le monde aujourd'hui, que vous soyez là pour la première fois ou depuis 20-40 ans. La croix est vraiment plus qu'un collier autour du cou. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous, une réalité profonde de nos vies.
Qu'un collier autour du cou, beaucoup plus qu'un simple bijou. La croix de Jésus, mon sauveur, est la plus grande épreuve d'amour.
Parfois je réalise à peine.
Parfois je réalise à peine que Dieu te soit entré en scène, échangeant ta vie pour la mienne. Et pour ce monde qui t'aime, la croix est toujours puissante. La croix est toujours puissante
pour me justifier,
pour me justifier.
Ensemble. promise. Vous le croyez? Depuis que le temps est vieux.
Racheté au prix de ton sang, couvert par ton amour si puissant, Jésus, merci pour cette croix. Tu offres à tous une seconde chance, tu répands ta grâce en abondance, Jésus, merci pour cette croix. Racheté au prix de ton sang, couvert par ton amour si puissant, Jésus, merci pour cette croix.
Merci, merci, merci pour cette croix.
Tu offres à tous une seconde chance, tu répands ta grâce en abondance, Jésus, merci pour cette croix. Et toujours puissante. La croix est toujours puissante. Pour me justifier, me pardonner et pour me restaurer. La croix est toujours puissante. La croix est toujours,
toujours
puissante. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
Je te chanterai,
je chanterai Dieu, mon essentiel.
Tu es mon essentiel.
Je chanterai en
l'honneur de son nom.
Je viens t'offrir, je viens t'offrir, Seigneur.
Je viens t'offrir
ce que j'ai de meilleur.
Je viens t'offrir ma vie.
Oui, à toi.
Oui, à toi, Jésus-Christ.
Et même si
je suis fragile,
et même
si
c'est difficile, je chanterai gloire. Je viens te dire, Seigneur, je viens te dire, Seigneur,
que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut me détruire. Non, me si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai
louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai quand
les mères sauront.
Toute ma vie,
je redirai.
Tu as donné ta vie,
tu as donné ta vie.
Toute ma vie, yeah.
Toute ma vie,
toute ma vie. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
à son nom.
Je chanterai
Dieu, mon essentiel. Tu es mon essentiel. L'honneur de son nom.
Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain?
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
à son nom.
Je chanterai
Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai gloire.
Recevoir toute gloire, vous le croyez? Parce qu'en fait là, on proclame des paroles qui sont super puissantes. Et peut-être que la plupart d'entre nous, on n'a pas toute la compréhension de ce qui sort de notre bouche. Mais je veux vous dire que ça a une puissance extraordinaire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel.
C'est le seul qui est digne.
Je chanterai louange à son nom,
à ton nom Jésus.
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Tout à l'heure pendant le chant, sur toujours puissante, que la croix est toujours puissante, il y a un couplet qui parle de seconde chance. Et ça résonnait particulièrement, c'est comme si cette phrase, elle ressortait particulièrement. Et je veux juste vous dire ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui a cru que la croix était là pour nous condamner, c'est le plus gros mensonge qu'on peut croire. Parce que la croix, elle est là pour nous délivrer. Elle est là pour nous emmener à la résurrection. Elle est là pour faire mourir tout ce qui nous pourri la vie, mais elle est là pour faire ressusciter ce que Dieu il a placé en toi. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une seconde chance, même une troisième chance, même autant de chances dont tu as besoin pour te relever et pour le suivre. Il n'en a pas fini avec toi. Lui, il n'est pas fatigué, en fait. Nous, on fatigue. Mais lui, il n'est pas fatigué. Lui, il a déjà tout accompli. Il sait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, quand on lève nos voix vers lui, c'est parce que juste on est en reconnaissance de ce sacrifice extraordinaire, extravagant, qui juste nous surpasse. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que moi, je ne m'en remettrai jamais. Parce qu'en fait, encore et encore, on en a besoin tous les jours. Je suis la seule ? Non ? Vous êtes là ? On continue à louer Dieu ensemble ?
Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là. De ton ciel.
Seigneur, on est tellement honoré, on est tellement béni que tu sois là, Jésus. Merci Seigneur pour ta... Alléluia. Je vous invite à vous asseoir, les amis. C'est une joie pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont, qui viennent ici pour la première fois? Juste levez votre main à votre place. On aimerait vous souhaiter la bienvenue. Juste gardez votre place, la main à votre place. Il y a un petit cadeau qu'on aimerait vous remettre, un petit cadeau de bienvenue. Juste gardez votre main levée juste quelques secondes, le temps qu'il y ait quelqu'un qui vous remette ce paquet-là. Voilà. Les amis, c'est une joie pour moi de vous recevoir. Et pendant que je vais faire quelques annonces... On va faire passer un panier, je précise, pour ceux qui nous visitent ici pour la première fois, ça ne vous concerne pas, c'est plus ceux qui viennent ici pour la deuxième fois, ça vous concerne. Voilà, donc on va laisser passer des paniers, et dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénir l'Église dans son avancement, dans tout ce que l'Église est en train de vivre. Donc je vous remercie d'être généreux, et tiens, Carrie, je te laisse passer le panier. Et j'ai également quelques petites annonces. Pour le fonctionnement aussi de l'Église, nous allons organiser ici des baptêmes. Bon, je m'attendais à... Alors, juste pour vous expliquer, les baptêmes, c'est quoi? C'est un témoignage public de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. C'est, je te le fais simple, c'est je fréquente une fille, ça fait depuis des années qu'on est ensemble, il y a un moment donné, on passe par le mariage. Tu vois, c'est un peu ça l'image. Alors... c'est littéralement, c'est-à-dire que je concrétise quelque chose dans le cœur qui se passe et je le concrétise de façon extérieure. C'est un témoignage. Et du coup, on a ouvert un groupe WhatsApp et il y a actuellement à peu près une dizaine de personnes qui sont ce qu'on appelle des préposés au baptême, et on va faire ce qu'on appelle un cours de préparation au baptême, juste que vous puissiez comprendre ce à quoi, qu'est-ce que signifie le baptême, c'est quoi cet engagement-là d'une certaine façon. Et s'il y a des personnes, vous dites « j'aimerais m'inscrire pour comprendre de qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'engagement », c'est gratuit. C'est possible, c'est ouvert. Juste de venir me voir à la fin de la réunion, mais on croit que Dieu va agir puissamment. Et c'est aussi, le jour de ton baptême, un témoignage extraordinaire. Et juste pour vous donner un petit témoignage, j'ai quelqu'un qui vient ici à Connect. Ça fait la deuxième fois qu'il vient à Connect. Il n'est pas là ce matin, c'est dommage. J'aurais voulu lui faire un petit mot de témoignage, mais c'est la deuxième fois qu'il vient à Connect, juste deux fois. Dieu l'a touché, l'a basculé. Et son cœur est prêt. Et je lui dis, écoute, ça te dit de te faire baptiser? Il m'a dit, ah mais carrément. Et moi, j'ai des potes à moi, des ravagés du cerveau, des gens, ils m'ont dit, écoute, ils ont décidé de faire, c'était quoi, il y a 15 jours, ils font une sorte d'évangélisation. D'évangélisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste, on va parler de l'amour de Dieu partout, à tout le monde, à qui on croise. Ils ont fait ça dans un parc, et il dit, on voit passer un musulman, un gars sur un vélo, on lui parle de Dieu, il dit, je suis musulman, moi, machin. Il lui parle de l'amour de Dieu. Le gars, il est touché, il est renversé, il descend de son vélo, il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ils ont dit, ben, il faut qu'on te baptise. Il dit, où est-ce qu'on peut faire ça? Il y avait une fontaine véridique, ils l'ont baptisé dans la fontaine. Donc, c'est juste pour dire à tous les baptisés, on va faire ça un petit peu mieux que ça. On va faire ça un peu mieux que ça. Mais vous comprenez l'idée ? C'est, je vous montre cette idée de ce côté radical. C'est qu'à un moment donné, si vous aimez Jésus, si vous croyez que Jésus est mort, il est ressuscité et il vit à jamais, eh bien, tu es prêt pour le baptême. D'accord ? J'avance du coup. Marquez cette date, ça va être le 23 juin. Le 23 juin, on va faire des baptêmes. Et pour tous ceux qui le veulent, on a cette petite préparation avec Jean-David. Barbe, Jean-David, où es-tu ? Est-ce que tu veux te lever à ta place ? Regardez ce beau. Est-ce qu'on peut applaudir Jean-David ? Voilà. C'est Jean-David qui prend cette responsabilité. Également, les amis, je voudrais faire une petite mention spéciale à tous les bénévoles qui nous servent joyeusement, merveilleusement, chaque dimanche. Il y a juste, en fait, tout ce qui se passe ici, vous venez, vous vous asseyez, c'est juste extraordinaire, mais il y a des gens qui font tourner la machine. Et juste merci à chacun d'entre vous, Junior, Sam, merci d'être là, José, Graziel, merci pour votre cœur, Gabi, David, des gens, ils font tourner la boîte de fou, et c'est juste énorme de vous avoir ici. Merci les amis. Également, et je termine avec cette annonce, le 4-5 mai, dites avec moi 4-5 mai, il y a une conférence spéciale qu'on va faire ici. Il y a un groupe d'Angleterre, des gens qui sont vraiment remplis de l'Esprit de Dieu. Et à la fin de cette réunion, vu qu'on est limité d'une certaine façon en termes de nombre de places, on va faire une journée à la chapelle à Saint-Jean-de-Moiran, mais on est limité à 50 personnes. Et le dimanche matin, ça va être ici. Et le 4-5 mai, pour cela, on va vous demander de vous inscrire via un lien qui va vous être communiqué juste à la fin de cette réunion. D'accord ? À la fin de cette réunion, sur le groupe WhatsApp. Oui, je précise aussi. Excusez-moi, il y a pas tellement. Si vous faites pas, si ça fait depuis quelques temps que vous êtes dans cette église-là, on n'a pas actuellement de site internet, ça va venir normalement pour la rentrée. Mais si vous voulez être au contact de toute l'actualité de la vie d'église, il suffit de venir me voir à la fin de la réunion et on te rajoute sur un groupe WhatsApp. J'en ai terminé pour les annonces. Sans plus tarder, juste je vous dis un petit mot sur l'orateur d'aujourd'hui, Pierre Granga. C'est un ami et un passionné autour d'un sujet qui est l'amour du Père. Pierre Granga, c'est un intellectuel, c'est un gars brillant intellectuellement, il a une maîtrise en théologie, une maîtrise en philosophie, c'est un gars, il réfléchit, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils ne réfléchissent pas, mais lui, il réfléchit. Donc à tous ceux qui sont un petit peu cérébrales, c'est bien que tu as un gars qui réfléchit. Et il réfléchit, il amène des captures de Dieu, etc. Et c'est un gars aussi qui est passionné de Jésus. Et juste, on est béni, Pierre, de t'avoir. On te reçoit comme un père au milieu de nous. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble, s'il vous plaît, Pierre Granga ?
Merci. Thank you for your heart.
You're welcome. Alors, juste une précision. Granga, ça écrit qu'un C, mon cher. Hein ? Alors, j'ai beau être grand, mais c'est Granga. Hein ? Répétez après moi. Granga. Voilà. Merci. Voilà. Je sais pas où ça se dit. Tu sais, il y a des gens, on dit, oh, il a pas que des cheveux sur la tête. Ça me concerne pas en fait. Voilà. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être dans cette église pour la première fois. Donc j'ai reçu mon cadeau, mon Léonidas. Qui est-ce qui a reçu son Léonidas ce matin ? Ouais, super. Merci pour la générosité. Merci pour l'accueil. Ce matin, je voudrais peut-être faire une surprise, c'est qu'on va parler du Père. Je suis intarissable sur le sujet. Alors bien sûr, pour moi, le Père, ça a été un tel chamboulement dans ma vie. Je suis né dans une famille où papa était orphelin de père depuis l'âge de 5 ans. Et papa donc, avait 5 enfants et il ne savait pas trop quoi faire avec ces deux trucs qui pendent, vous savez, le long de votre buste. Ça s'appelle des bras. Oui. Donc j'ai eu ce que j'appelle un père tronc. C'est-à-dire qu'en fait, un père qui ne savait pas trop quoi faire avec ses bras. Alors malheureusement, il y a aussi des gens qui ont eu des pères qui savaient trop quoi faire avec leurs bras. Ça, c'est aussi une autre catégorie de pères. Mais moi, donc, ce père-là était très embarrassé quoi, avec l'affection. Par contre, il avait un langage d'amour, c'est de pourvoir aux besoins de sa famille. Donc papa pourvoyait aux besoins de sa famille. Il n'y a rien à dire à ce côté-là. Il était extraordinaire, quoi. On n'a jamais manqué de rien. Mais on n'a jamais manqué de rien matériellement. Par contre, au niveau affectif, c'était autre chose, quoi. Et je cherchais l'attention de mon père, etc. Et puis, un jour, j'ai rencontré Jésus. Ça a été une révolution, puisque j'étais anarchiste. Je disais ni Dieu ni maître. J'avais une touche de cheveux comme ça. Oui, j'ai eu des cheveux. J'en vois qui en doute. Oui, il faudra qu'un jour, absolument, je vous amène une photo qui le prouve, n'est-ce pas? Donc, j'avais des cheveux bouclés, en plus. Ouais. Oui, toi aussi. Une grosse tignasse. Et puis, j'avais déjà des lunettes rondes. Voilà. Donc, j'ai gardé cette identité. Là, voilà. Et rencontrer Jésus, ça a été pour moi la rencontre bouleversante, parce que quand vous dites que Dieu n'existe pas, etc., de rencontrer un Dieu qui existe, rencontrer Jésus, ça a été vraiment... Alors que j'avais cassé du bois vraiment sur le dos de Dieu, etc., j'étais révolté, rebelle, etc., je haïssais la religion et le christianisme jusqu'au fond de moi-même, quoi. Et c'était terrible, quoi. Et donc, rencontrer Jésus, vous imaginez le chamboulement, quoi. Et je pensais que, voilà, j'avais tout rencontré. J'avais rencontré Jésus, c'était extraordinaire. Mais je ne savais pas qu'une une belle surprise m'attendait. C'est qu'en rencontrant Jésus, Jésus m'a amené vers son Père. Et alors là, ça a été aussi une deuxième rencontre extraordinaire. Et à mon sens, on devrait rencontrer ainsi chaque personne de la Trinité, hein, personnellement. Et non seulement Jésus, le Père, mais le Saint-Esprit aussi. Et ça a été vraiment extraordinaire. Dans Luc 15, au verset 11 et 12, on voit un fils qui m'a beaucoup ressemblé et qui finalement demande à son père la part du bien qui doit lui revenir, et il va partir. Et dans la phrase qu'il utilise... C'est intéressant, il dit « Donne-moi la part du bien qui doit me revenir ». Et là, le passage parle si vous voulez, allez, on fait un peu de grec, ça ne vous ennuie pas, hein. Le mot qui est utilisé en grec ici, c'est très intéressant, c'est « Donne-moi l'ousia, ton ousia, papa ». C'est en fait « Donne-moi qui tu es ». On a parlé du Dieu essentiel, hein, tout à l'heure, « Tu es mon essentiel ». En fait, le cadet, là, il demande l'essentiel. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est dire « Moi, je veux être toi, en fait. » Et pour ça, il n'a pas d'autre idée que, finalement, de tuer symboliquement ce père en disant « Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Il le fait à un moment donné où le père est encore en vie. Or, en Israël, à cette époque-là, tu avais deux moyens d'hériter. Soit tu héritais soit tu savais de quoi tu allais hériter, hein. Avant que le père meure, soit tu savais de quoi tu allais arriver après la mort du père, mais tu n'entrais dans l'héritage qu'une fois le père mort, vous comprenez? Donc, de demander son héritage du vivant d'un père, ça a été, il a innové dans le déshonneur, quoi, dans le déshonneur. Et ça nous montre un chemin de croissance qui est très connu en Europe et qui est très connu dans l'Occident, le fait finalement de grandir en tuant le père. Et ça, c'est Freud et d'autres qui l'ont dit, etc. Où en fait, il faut, et le monde politique français montre beaucoup ça, hein, où souvent, c'est soit le président qui tue son premier ministre, soit le premier ministre qui tue son président en général. Et en fait, on a un modèle de croissance, en fait, où quelque part, on fait croire aux gens que le seul moyen de grandir, c'est de tuer le père. Mais il y a une autre manière de grandir. C'est d'honorer les pères, honorer les parents, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Donc, parce que quand on déshonore, on rejette ce qu'ils sont et ça ne viendra jamais sur notre vie. Mais quand on honore quelqu'un, eh bien finalement, on fait venir ces choses dans notre vie. Donc, honorer, c'est un chemin de croissance extraordinaire et on n'est pas obligé de déshonorer pour grandir. Ouf, bonne nouvelle, hein ? Bonne nouvelle. Mais le cadet, lui, il a choisi de déshonorer. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est prendre la place du père. Il veut être père, en fait, quelque part lui-même. Mais il va le demander avec violence. Cette requête, ça va être donc au travers d'un meurtre symbolique, il va demander avec violence, « Donne-moi ton ousia ». Et quelque part, c'est une grosse crise d'adolescence qui est en train de se passer là. Et finalement, toutes les crises d'adolescence, elles sont basées là-dessus, sur un moment donné où on croit qu'il faut qu'on tue nos parents pour finalement avoir ce dont on a besoin, c'est-à-dire la liberté, le sexe et l'argent, en gros. Et du coup, bien sûr, est-ce que Dieu veut nous donner la liberté, le sexe et l'argent? Bien sûr qu'il veut donner ça, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps. Et ce que fait le diable, il vient vers l'adolescent, il vient lui mentir, lui dire « Mais non, c'est pour toi maintenant !» Vous voyez, quand le diable ne peut pas... Souvent, le diable, c'est ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il veut nous détruire avec la bénédiction, en nous la faisant réclamer avant le temps. C'est pour ça qu'entrer dans une sexualité trop précocement... vous savez, le nombre de jeunes filles qui se suicident aujourd'hui, on n'en donne pas les chiffres, mais c'est impressionnant. Il faut qu'il se passe quelque chose, les amis. Il faut que l'Église prêche cet amour du Père. Il faut que cette Église aussi reprêche la patience. Il faut que, vous voyez, il y a quelque chose de magnifique dans la sexualité, mais il y a un temps pour tout. Il y a un cadre aussi. Vous voyez, c'est ça la crise d'adolescence, c'est quand le gamin est sous son casque de musique, etc., où il entend de la musique violente, où il est devant ses jeux vidéo, puis d'un coup, il rumine quelque chose. « Ouais, papa ne veut pas me donner, maman ne veut pas me donner la liberté, maman ne veut pas me donner le sexe, papa et maman ne veulent pas me donner l'argent, non, mais je vais le prendre de moi-même. » Et hop, on est en révolte. On réclame ce qui est légitime, mais on le réclame avant le temps. Et il y a quelque chose de très, très, très moderne dans cette parabole de Luc 15 au verset 12, de quelqu'un qui réclame « Je veux être toi ». Mais c'est beau de vouloir être moi, mais il y a une autre manière que de tuer le père que de devenir un père. Il y a une autre manière de devenir un père que de tuer le père. Et puis, suite à cette demande qui est vraiment un meurtre symbolique, hein, vraiment, suite à cette demande, le Père va ouvrir ses bras et va leur partager son bien. Waouh ! C'est-à-dire que ce qu'il y a de fou ici, vous avez la parabole commence par une violence incroyable, c'est Jésus, c'est le Fils qui raconte cette parabole, elle commence par une violence incroyable, puis tout d'un coup, on voit le Père qui ne rejette pas cette violence, mais qui la prend en plein en lui. Et là, il leur partagea. Pour moi, c'est l'image de deux bras qui s'ouvrent. Et il leur partagea son bien. Et le mot bien ici en grec, c'est bion. Il leur partagea sa vie. Donc, nous voyons le meurtre, la violence qui vient. Et boum, le père prend cette violence en pleine poire. Ça marche. Hein? Donc, on m'encourage à lire cette parabole. Elle se trouve dans Luc 15. Luc 15. Voilà, Luc 15. Et nous sommes dans les versets 11 et 10. Jésus dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et il leur partagea son bien. Voilà, c'est deux versets 11 et 12. Et je vous invite à lire toute cette parabole, elle est magnifique. Il y a quelque chose, il y a une révélation de l'amour du Père là-dedans, hein, que je vous invite à lire. Et donc le Père va partager sa vie. Donc on a une image d'un Père ici qui est complètement sacrificiel, qui offre sa vie à la violence. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu par exemple le cinquième élément. Il y en a qui connaissent ce film ? Oh, c'est génial ce film. Je vous invite à le... En plus, il y a des scènes, mais d'une drôlerie dedans. Il y a un personnage dans le cinquième élément qui est trop génial. Mais le film commence comme ça. Vous avez donc une planète noire qui arrive comme ça, près de la Terre. Et puis, vous avez deux personnages à ce moment-là qui sont principaux. Vous avez une sorte de militaire, etc. Et puis, vous avez une sorte de... on va dire, de sacrificateur, de prêtre, etc. Et le militaire, il dit, envoyez une première salve de missiles. Et le sacrificateur, le prêtre, il dit, non, non, surtout pas, ne faites surtout pas ça. Et le sacrificateur, si, on va le faire. Et ils envoient donc une salve dans la planète noire. Et une fois que la planète noire reçoit l'explosion, il y a une explosion de joie, sauf que la planète noire, elle a doublé de volume. Wow. Alors, le militaire dit, on va envoyer encore plus de missiles, on va charger les têtes nucléaires cette fois-ci, puis on va la dégommer, cette planète. Et le sacrificateur dit, surtout ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça. Et hop, on envoie cette fois-ci la salve de la fin des temps, quoi, sur cette planète noire. Et tout d'un coup, la planète noire reçoit cette puissance comme ça. On voit à l'écran une énorme puissance, déflagration. Et puis tout d'un coup, c'est la joie. On dit, ça y est, on l'a eu. Sauf que quand le feu et la fumée s'est dissipée, la planète a décuplé. La violence engendre la violence. La violence, elle amène à l'escalade de la violence. Il y a quelqu'un qui a dit, si on pratique dent pour dent, œil pour œil, un jour, les gens seront aveugles et ils seront édentés. Il y a donc dans la violence une escalade qui est indispensable. Sauf que le verset « dent pour dent, œil pour œil », c'était déjà pour limiter l'escalade de la violence déjà à l'époque. Ce n'était pas pour encourager la violence, c'était au contraire pour la limiter. Parce que déjà à l'époque de ce commandement, eh bien, dent pour dent, œil pour œil, on avait tendance à se venger au-delà de l'offense. Vous voyez, c'est ancré en nous. Quand on veut se venger, on se venge au-delà de l'offense. Eh bien, là, il y a cette escalade. Or, qu'est-ce que fait le Père ? Au moment où la violence arrive, s'il répond par la violence, qu'est-ce qui se passe ? Il bâtit la violence du Fils. Et au lieu de bâtir la violence du Fils, le seul moyen qu'il a d'éviter que la violence grandisse, éviter l'escalade de la violence, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la violence en lui. Et à ce moment-là, il partage sa vie. « Donne-moi ton essence !»« Voici, fils, ma vie. » Je voulais qu'on voit une première image. Ah oui, ça va venir. C'est en veille. Ah, regardez, la technologie ici, c'est extraordinaire. Ah, tu sais, ils sont vraiment high-tech dans cette église. Dis à ton voisin, ils sont vraiment high-tech, tu vois. Ça s'appelle une télécommande manuelle. C'est-à-dire... Bon, c'est pas grave, ça va venir, hein, au moins. Ça va venir. Moi, je me dis, génial, dans cette église, je vais dire, voici la première photo. Ouais, c'est... Voilà. Voilà. En plus, il faut que ça chauffe. Oui, c'est... Est-ce qu'il y en a ceux qui pédalent sont où ? Dans une autre pièce. Et ils alimentent, tu sais. Alléluia. Et alors, si vous êtes là la première fois, ce n'est pas à vous de pédaler. Hein ? Mais la deuxième fois, troisième fois, c'est possible qu'on vous mette un pédalier sous la chaise. Ça sera pour alimenter cette énergie. Vous voyez, c'est... Voilà. Ah, voilà. Alors ça, c'est l'image, vraiment, c'est l'image de Zeus, en fait. C'est l'image de Zeus, et vous savez que notre mot « Dieu » en français vient directement du mot « Zeus », en fait. C'est un peu problématique. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas un mot, nous, autre que ce mot-là. Ça vient du mot « Zeus », qui est devenu après, en latin, « Deus », puisque effectivement, quand vous déclinez le mot Zeus en grec, il y a un moment donné dans la déclinaison, il y a le mot Deus. Eh bien, c'est passé dans le latin, Deus, puis c'est passé après dans toutes les langues latines, Dio, Dios, Deus, et Dieu donc. Alors, c'est terrible parce que, quelque part, quelle est la différence entre le Père et Dieu ? Elle est énorme. Elle est énorme. Vous voulez savoir la différence ? C'est que Zeus, c'est celui qui réclame le sacrifice. Il dit, attendez, hein, si vous voulez vous approcher de moi, il va falloir que vous me sacrifiez quelque chose, hein, et quelque chose qui a de la valeur. Hein. Et on le représente avec un éclair, comme ça, prêt à vous transpercer, à vous, comme ça. Un Dieu de colère, un Dieu qui est fâché, qui est en colère. Alors imaginez, Tu es père, tu essayes d'être père comme ça, toi. Et puis, t'as quelque part dans ton arrière-pensée de Français, d'Européen, tu as cette pensée de Zeus. Tu as envie de... Parce que le problème, c'est qu'on devient ce que l'on adore. C'est pour ça que c'est très important qu'on adore la bonne personne et de la bonne manière. Parce que si on adore, on va devenir ce que l'on adore. Je ne sais pas si vous avez vu... Tiens, je vais vous montrer un principe. Vous avez entendu parler de Jean-Baptiste Guégan ? C'est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Vous croyez que le gars est venu sosie vocal parce qu'il n'admirait pas Johnny Hallyday ? Le gars admirait tellement Johnny Hallyday qu'il est venu sosie vocal. Mais vous savez, quand vous fermez les yeux, vous entendez Jean-Baptiste Guigan, c'est impressionnant. Vous avez l'impression d'entendre Johnny Hallyday, quoi. Ce qui veut dire que dans toute adulation, dans toute imitation, dans toute fait d'adorer, eh bien, à un moment donné, on devient ce que l'on adore. C'est pour cette raison que dans le cœur de l'Église, c'est important que nous sachions qui nous adorons. Et ce n'est pas celui-là, parce que celui-là, il réclame un sacrifice. Celui que nous adorons, c'est celui-là, image suivante. Vous voyez, on s'est vraiment amélioré. Hein ? Alors, pas au niveau couleur, clairement. C'est une catastrophe, la couleur. Parce que là, nous sommes en présence d'un... Oui, c'est vrai. On peut faire des progrès au niveau couleur. À mon avis, c'est même en négatif, là, c'est quasi... Ouh là là, quelle horreur cette couleur. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vous fais enrager, les amis. Hein. Je vous aime. Hein. Je vous aime. Tous les gens que j'aime, je les fais enrager un petit peu comme ça. Et donc, là, on a un père. Et c'est le père. Ce tableau, il est au musée de l'Ermitage. Et paraît-il que les gens, quand ils veulent voir ce tableau, il y a une queue pas possible. Les gens veulent voir le père. Vous savez, le chant « Papa Outé », vous avez entendu parler de ce chant ? Vous savez combien de fois il a été vu dans la francophonie ? Combien ? Allez, on y va. Plus de 3 millions. 25 millions. 500 millions. Eh bien, les amis, on vient de dépasser le 1 milliard. Oui, il y a une quête du père. « Papa, t'es où ? Papa Outé ?» Il y a une quête du Père. Et ce Père-là, Jésus est venu pour nous le montrer. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jésus n'est pas venu pour se montrer lui. Il veut montrer qui est le Père. Et le Père, lui, il veut montrer qui est Jésus. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est que Jésus dit, ah non, pas moi, le Père. Et le Père dit, ah non, le Fils, etc. Et il se renvoie la gloire, mutuellement, tout le temps. En fait, ils ont une mutualité d'estime. Ils rivalisent d'estime les uns pour les autres. Le Père rivalise d'estime pour le Fils rivalise d'estime pour le Père. Et d'ailleurs, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Il y a une rivalité d'estime. Et dans Romains 12, 10, Jésus, c'est Paul qui dit « rivaliser d'estime les uns pour les autres ». Et s'il te plaît, mon ami, j'aimerais rentrer en rivalité d'estime avec toi. Vraiment. Je vais rivaliser. D'accord. Je vais t'aimer plus que toi, tu m'aimes. Ouais. Amen. Je vais rivaliser d'estime. Je vais rivaliser d'estime aussi avec toi. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, je veux rivaliser d'estime avec toi. Alléluia. C'est ce qui fait que dans la Trinité, où il y a cette rivalité d'estime et qui fait que finalement, ça crée un mouvement. Parce que c'est très oriental, en fait. Y a-t-il des orientaux parmi nous, ici ? J'espère qu'il y a des orientaux. Alléluia ! Il y a le Liban. Il y a... Quel pays, mon ami, Jamel ? Algérie. À moitié arménienne. Hein ? Espagnol. La Sicilia. Allora. Et allora, gli italiani. Sono qua. E una chiesa italiana? Dove sono gli italiani? Et toi, mon frère, tu viens d'où? Du Brésil? Ah, ok. Vous savez que dans le monde oriental, un jour j'étais en Égypte, et puis le pasteur qui s'appelle Gamal, qui est un. Waouh! Il s'appelle pasteur Gamal. Abdelmessi Tawadrous, ça ne peut pas s'inventer ça. Abdelmessi Tawadrous. Et il dit, reste dans la voiture, et je le vois traverser une place, et il frappe à une porte, et il y a quelqu'un qui lui ouvre la porte. Il fait comme ça, et qui lui met la main dessus, et qui l'attire comme ça. Et lui, il se met en arrière, j'ai dit, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Je reste dans la voiture, ou je sors, ou je fais quoi? Il dit, non. Et je voyais qu'il disait, non. Et il disait comme ça, non. Puis je voyais que, mais ils sont en train de se disputer. C'est terrible, ça va être sanglant dans quelques instants. Et puis vraiment, et à un moment donné, j'ai commencé à décrocher la ceinture de sécurité pour sortir, pour aller à son aide, quoi. Puis d'un coup, je le vois, il se détache comme ça du gars, puis il arrive vers moi comme ça. Et je lui dis, ça va, pasteur Gamal ? Il dit, oui, ça va. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, il voulait juste m'inviter à manger. Waouh !
C'est violent.
Ouais, c'est l'hospitalité, tu vois. C'est l'hospitalité orientale. Et puis, il y a dans l'hospitalité l'idée de dire, non, non, après toi. Ah non, non, pas après toi. Et regardez ce que ça fait entre deux personnes. Imaginez trois personnes qui se préfèrent les unes aux autres. Ça crée un mouvement, ça crée une danse, la danse de la Trinité. Et l'Église, c'est l'expression de cette danse-là, où l'amour circule entre nous, où l'amour circule, c'est l'amour de la Trinité. Parce que notre communauté d'origine, elle est dans la Trinité. Ce n'est pas dans une caverne, au fond d'une caverne où on dessine au fond des murs. Ce n'est pas ça notre communauté d'origine. Notre communauté d'origine, c'est la Trinité, où l'amour circule, où un homme y préfère sa femme, où une femme préfère son mari. Alléluia. Rivaliser d'estime les uns pour les autres. Rivaliser d'estime les uns pour les autres. Et ça, c'est ce genre de père-là. Et j'aimerais justement vous montrer comment cette idée d'un père qui se sacrifie est venue. Qu'est-ce que ça a coûté finalement à l'Éternel pour faire comprendre ça à l'humanité ? Le premier gars qui a dû comprendre, qui a dû faire un shift, c'est notre Père à tous, le Père de la foi. Vous savez qu'Abraham est appelé le père de la foi. Eh bien, le Seigneur a dû travailler un truc. Et vous savez que le Seigneur a une pédagogie assez intéressante, qui est très très bonne. Vous savez qu'à un moment donné, vous pouvez pas dire à un enfant, ne t'approche pas de ce poêle parce que tu vas te brûler. Et à un moment donné, il faut que... Si un enfant est tenté d'aller vers le poêle, il faut lui amener gentiment la main vers le poêle comme ça. Il dit, tu vois, là, tu supportes. Là, ça commence à faire mal. Je ne vais pas le toucher, hein, le poil. Là, oh là 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 là, tu as vu comme ça fait mal là, allez, je ne vais pas plus loin. Tu vois ce qui peut arriver si tu touches le poil. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça ne sert à rien de dire, non, touche pas le poil. Il y a un moment donné, il faut que le... quelque part... Donc, ça veut dire quoi? C'est que quand le Seigneur veut changer notre idée, il doit pousser notre idée à son paroxysme. Je redis, ça c'est un punchline. Quand Dieu doit changer un modèle de pensée en nous, il doit amener le modèle de pensée jusqu'à son paroxysme. Et c'est quand le modèle de pensée était jusqu'à son paroxysme qu'à ce moment-là, on se rend compte que on croyait, excusez-moi, une bêtise. C'était faux, c'était pas bon. Va jusqu'au bout de ta pensée, puisque tu ne peux pas encore recevoir la vérité. Va pour toi-même voir ce qui est vrai pour toi jusqu'au bout. Et à un moment donné, Abraham, il vient d'une société où l'idée d'offrir son fils, ça faisait partie des modèles. Parce que les dieux, à l'époque d'Abraham, c'est ce qu'ils réclamaient. Ils réclamaient des sacrifices, mais des sacrifices coûteux, des trucs qui coûtent vraiment, quoi. Alors, parce que, excuse-moi, mais offrir un coq, ça te coûte quoi ? Ça vaut combien un coq ? Bon, allez, on va dire 10 euros. Offrir un veau, ah, quand même, ça commence à coûter un peu plus financièrement. Mais si vous avez vu, si vous avez entendu parler de la guerre de Troie, celui-là, Agamemnon, celui qui va aller récupérer sa femme chez le roi qui a piqué sa femme, vous savez ce qu'il va faire pour être sûr de parvenir dans l'échec ? Il va sacrifier sa propre fille. Et la guerre de Troie va avoir lieu, elle va durer. Et à un moment donné, les généraux d'Agamemnon vont douter de la victoire. Et ils vont vouloir faire demi-tour. Celui qui a offert sa fille, il dit, ah non, mais attendez les gars, vous êtes peut-être là pour faire du butin, moi j'ai offert ma fille. Il est hors de question que je fasse marche arrière. Moi je veux en avoir pour mon argent, je veux en avoir pour mon sacrifice. Je préviens ceux qui iront sur la plage, je les descends. Il y a un conquérant qui a fait ça un jour. Il a voulu prendre l'Europe. Ils sont arrivés au sud de l'Espagne, à Gibraltar, avec leur bateau. Le gars, il a brûlé tous les bateaux. Il a dit, derrière, c'est la mer, devant, c'est l'attaque. Choisissez votre mort. Je veux dire, waouh. Et donc, c'est cette mindset, ce qu'on appelle ce mindset en anglais, cette manière de penser, cette manière de voir le monde, de voir la vie, de voir la victoire. Il n'y aura pas de victoire sans sacrifice. Vous allez me dire, nous sommes une société évoluée, n'est-ce pas ? Plus personne ne pense comme ça. Ah bon ? Il n'y a pas une heure, je priais pour un papa. Il va se reconnaître, et je t'aime, papa, qui dit, j'ai tout sacrifié pour mon entreprise. J'ai sacrifié ma relation avec ma femme et ma relation avec mes filles. C'est seulement quand mes enfants, c'est seulement quand ma femme est décédée, je me suis rendu compte qui elle était. C'est quand ma femme est décédée, quand mes enfants sont venus me consoler, je me suis rendu compte que j'avais une famille. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il nous arrive pour que nous ouvrons les yeux sur notre famille ? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il nous arrive pour que nous voyons avec qui je partage ma vie ? Qu'est-ce qu'il faudra que nous perdions pour savoir ce que nous avons perdu ? Vous voyez, cette idée de faire des sacrifices au nom de la réussite sociale. Alors nous, ce n'est plus pour prendre des terrains, mais c'est pour gagner des parts de marché. À quoi te servirait-il de gagner le monde entier ? Si tu fais la perte de ton âme, c'est ton épouse ? Oui ? Tu te rends compte que c'est la chose la plus précieuse que tu as ? Tu te rends compte que ce qu'il y a dans ce ventre-là, ça va changer ta vie définitivement ? Tu sais, quand ma fille a pris mon petit doigt comme ça, qu'elle a mis sa main autour de mon petit doigt, j'étais foutu. C'est comme si elle disait, papa, je compte sur toi. Waouh. Je suis devenu un vieillard, tu vois. Je veux dire, en sagesse, en une seconde, quoi, à ce moment-là. Et puis, il y avait une grosse flaque, hein, de mes larmes. Tu vois ce que je veux dire ? Waouh. Ma fille avait pris mon petit doigt, elle avait volé mon cœur. Elle avait volé mon cœur. Et d'ailleurs, elle ne me l'a jamais plus rendu après. Hein. Parce que si vous mettez les enfants au monde, vous restez parents jusqu'à la fin de vos jours. Ne devenez pas parents pour 20 ans, s'il vous plaît. Abandonnez cette idée. Arrêtez ce délire-là. On reste parents, on reste des coachs, on reste des... Voilà, toute sa vie, et c'est très bien comme ça. Ça nous aide à devenir des hommes, ça nous aide à devenir des personnes âgées. Ouais, ça nous aide à grandir, en fait. Mais soyez disponibles, mes amis. Soyez disponibles. Alors... Le Seigneur va vouloir extirper dans la pensée d'Abraham cette idée qu'il est un Dieu qui demande le sacrifice. Alors ce qu'il fait, il va dire, sacrifie-moi ton fils. Et la preuve que quelque part, c'était dans la pensée d'Abraham et même de Sarah, parce qu'on ne va pas me dire que Sarah n'était pas au courant du projet. On ne va pas me faire croire qu'Abraham est parti avec le fils comme ça un matin, au petit matin, comme ça. Tu sais, sneak out, tu sais, il est sorti comme ça en catimini. Franchement, le chemin qu'ils allaient faire, ça demandait de la préparation. Je doute que Sarah ait dit, où est-ce que vous allez, femme, tu le sauras plus tard. Je ne pense pas. Donc tous les deux avaient un mode de pensée où les dieux réclament des sacrifices. Attention, la Bible ne dit pas que les dieux n'existent pas. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Elle ne dit pas que les autres n'existent pas. Attention, hein. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le Dieu des dieux. Mais ces dieux-là peuvent très bien, eux, par contre, demander des sacrifices. Si vous ne croyez pas, demandez à Mammon s'il ne réclamera pas des sacrifices. Demandez à Moloch s'il ne réclamera pas le meurtre des enfants. Est-ce que Moloch et Mammon sont morts en France ? J'ai l'impression qu'ils ont une belle vie, hein ? Voilà, c'est Siri qui essaye de m'aider dans mon message. Je trouve que Siri, tu es très intrusif. Tu vas te taire maintenant au nom de Jésus. Et donc, Abraham va monter sur la montagne. Bien sûr, ça lui coûte. Punaise, il a attendu tant d'années d'avoir ce fils. Mais Seigneur, tu m'as promis ce fils, j'ai attendu tant d'années, maintenant que j'ai un fils, tu me demandes de le tuer, mais c'est quoi ce Dieu-là, quoi ? Ok, mais jusqu'à ce point, dans le chemin d'Abraham, Abraham a compris qu'il fallait lui faire confiance, comprenez ? Il ne sait pas trop pourquoi, mais il sait qu'il faut lui faire confiance. Il est à un point de son chemin avec Dieu qu'il sait que de toute façon, tout ce que Dieu demande, des fois, est un peu étrange, mais il faut lui faire confiance parce que l'obéissance, ça ne bénit pas Dieu, ça me bénit moi. Perdez cette habitude de croire que obéir à Dieu va bénir que Dieu. Le premier qui sera béni dans toute obéissance, c'est vous. Vous serez le premier bénéficiaire de votre obéissance. Il y a quelque chose de très égoïste dans l'obéissance. Obéissez à Dieu, vous serez béni. Bien sûr, Dieu sera honoré, mais vous serez le premier bénéficiaire de cette obéissance. Mais c'est, vous savez, ce qui nous fait croire qu'on ne sera pas le premier bénéficiaire, parce qu'on croit à un Dieu qui demande des sacrifices. C'est ça qui nous empêche de croire que nous ne serons pas le premier bénéficiaire, parce que nous pensons que Dieu va nous demander des sacrifices, donc on ne peut pas être le premier bénéficiaire. Eh bien si, le premier bénéficiaire de toute obéissance à l'Éternel, c'est nous. Et alors, il va monter jusqu'en haut de la montagne. Et puis, alors là, l'enfant, waouh, punaise, je me mets à la place du père, hein, qui était Abraham. Papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est, écoutez bien la question, où est l'agneau pour le sacrifice ? Punaise, mais mettez-vous deux secondes à la place de ce père. Fils, le père pourvoit. Puis à l'intérieur du père, punaise, père, il faut que tu pourvoies. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, quoi ? Et puis il arrive au bout, imaginez. Cette violence, il saisit l'enfant, il l'attache, il le met sur l'autel et il lève le couteau. Il lève le couteau, on a souvent dit, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Mais mes amis, on doit être aussi réaliste. Certes, il y a un côté foi. Je pense que dans toute la montée, il y a un côté foi. Mais jusqu'au moment où finalement Dieu reste silencieux, et il a demandé sacrifice et puis on arrive jusqu'en haut comme ça et qu'on lève le couteau, ça c'est le paradigme qu'il a, qui lui fait lever le couteau. Vous comprenez, il n'y a que le paradigme qui est là. Et puis à ce moment-là, alors qu'il a le couteau levé, une voix se fait entendre. Stop. Ouf, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, l'ange de l'Éternel. Et là, dans le passage, vous trouverez ça dans Genèse 22, je vous invite à le lire. Lisez-le dans un texte qui respecte vraiment le texte original, parce que j'ai vu des traductions qui se veulent des traductions courantes, etc. Ça enlève deux détails, mais ces détails, c'est important. Il est dit que lorsque Abraham a entendu la voix de l'Éternel qui lui dit « stop », Abraham a entendu cette voix derrière lui. Alors je me dis, tiens, une voix derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Et voilà donc ce qui se passe. Écoutez bien, il a entendu cette voix derrière lui. Donc le Seigneur ne fait pas entendre la voix devant, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, il la fait entendre derrière lui. Et Abraham est obligé de se retourner donc. Et deuxième détail, qui peut-être n'a pas d'importance pour vous, mais pour moi, ça a tellement d'importance. Et il leva la tête. C'est-à-dire qu'en fait, voyez le truc. Il entend une voix derrière, et pour voir la voix qui est derrière, il est obligé de se tourner et de regarder vers le haut. Se tourner et regarder vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, il était monté à un sommet, mais ce n'était pas encore le vrai sommet. Il y avait quelque chose de plus haut dans le sommet. Il y avait quelque chose au-delà de son expérience. Il y avait au-delà de son humanité. Il y a quelque chose qui l'attend. Il y a une surprise, mes amis, qui va faire... Vous savez, il y a une émoticône maintenant sur les iPhones où on voit un crâne qui saute comme ça. Et puis, ils avaient le cerveau qui explose comme ça. En anglais, ça s'appelle « mind-blowing ». Eh bien, Abraham va vivre l'explosion de son paradigme, l'explosion de sa représentation de Dieu. Et en fait, la raison pour laquelle Dieu lui parle par derrière, c'est parce qu'Abraham n'est pas positionné correctement. Et toi, et il l'a dit un jour à Pierre, qui avait trahi Jésus, il va lui dire, et toi, Pierre, quand tu seras revenu, c'est l'idée de quand tu seras retourné. Et c'est ça, la repentance. C'est d'être dans une voie et dire, waouh, j'avais une représentation et je suivais cette représentation, je vais me retourner. Et là, en me retournant, plaf, je découvre une autre image. Et je lève les yeux. C'est une image qui me vient d'en haut, qui oblige un retournement sur lui-même. Abraham va vivre un retournement sur lui-même. Et alors qu'il s'attendait à voir un agneau, parce que je vous rappelle, en montant, Isaac pose la question, où est l'agneau? Et Abraham répond, Dieu pourvoira à l'agneau. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Du coup, j'ai presque peur de vous montrer l'image. On y va? Voilà ce qu'ils attendaient. Elle est pas mal. Hein, merci. On sent qu'avec le temps, la technique s'améliore. Hein. Elle est pas mal. Ils s'attendaient à voir ça. Or, qu'est-ce qu'ils voient? Et qu'est-ce qu'ils voient? Roulement de tambour. Jamel, tu peux faire. Allez. Là, on est un peu scotché, là. Image suivante. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est un agneau, les amis? Est-ce que ça ressemble à un agneau? C'est de la même famille. Eh oui, c'est de la même famille. Parce que si vous laissez un agneau grandir, il peut terminer comme ça. Et vous pensez que le bélier, on va rentrer dans le monde réel, d'accord? Vous pensez que le bélier était pris dans les branches, en train de se dire, je vais attendre qu'Abraham arrive. J'ai rendez-vous avec Abraham, il est un petit peu en retard. Et je vais attendre qu'un... Non, si vous savez ce que c'est, si vous savez ce que c'est qu'un bélier, punaise, le gars, il se battait pour sa vie, quoi. Ça devait faire un raffut. Si vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans le cou d'un bélier, allez dans un champ où il y a un bélier, vous voyez ce que je veux dire. Vous aurez une petite idée. Souvent, je dis aux gens, vous savez, l'hébreu est une langue très concrète. Pour parler de la force, elle parle de la corne. Si vous ne savez pas ce que c'est que la force, allez là où il y a des cornes. Vous allez voir. En 5 minutes, vous saurez très très bien ce que je veux dire par là. Quoi. Hein? Ça me rappelle ton histoire que tu m'as envoyée. C'est... Sur le genre, tu sais. Et donc, ce bélier devait faire un boucan, mais alors pas possible. Et ma question pour vous, pourquoi Abraham n'entendait pas le bruit que le bélier faisait pour sauver sa vie? Pourquoi? Parce que Je veux dire, il arrive au sommet, il se retourne comme ça, il lève les yeux, paf, il voit ce buisson, il voit, c'est ça qu'il voit en levant les yeux. Il voit un bélier qui est pris dans ses cornes. Pourquoi Abraham n'a pas entendu ce bruit? Pourquoi il ne l'a pas vu et ne l'a pas entendu? Eh bien, je vais vous dire une chose, mes amis. Pour voir quelque chose, entendre quelque chose, il faut être préparé à le voir. Il faut être préparé à l'entendre. Si intérieurement, on a une fausse idée, on ne peut pas voir. Je prends un exemple. Un jour, j'étais sur l'autoroute, il y avait un gamin à côté de moi, passionné d'aviation. Il m'a dit, oh, ça c'est un Cessna 787B. J'ai dit, de quoi tu me parles là? Ben, il dit, là, regarde, devant. J'ai dit, devant. Mais non, pas sur la route, dans le ciel. Je voyais rien. Et tout d'un coup, je vois un avion qui traverse comme ça, effectivement, devant nous. Ah, je dis, ah, c'est ça le Cessna, combien de... C'est ça, 787B. Ah oui, d'accord, ok, respect. Mais pourquoi je ne le voyais pas? C'est parce que je ne connais pas les avions. Et je ne pouvais pas voir ce que je n'étais pas préparé à voir. Pourquoi ce gamin l'a vu du premier coup d'œil? Parce que lui, il aime les avions. Il était préparé à voir ce qu'il devait voir. Une autre image. Vous allez dans les montagnes comme ça, et c'est arrivé à un chrétien. Il va dans les montagnes comme ça, et puis il arrive à une certaine hauteur, et je sais que vous avez de très belles montagnes tout autour comme ça, et puis tout d'un coup, il voit une dame qui est accroupie. Il se dit, oh là là, mince, la dame, elle doit faire caca. Donc c'est embêtant, j'arrive en même temps qu'elle, enfin, juste après elle comme ça. Et la dame se retourne et dit, vous avez vu? Alors il dit non. Et en fait, il a vu qu'elle ne faisait pas caca. Et elle dit, vous n'avez pas vu? Il dit non, je n'ai pas vu, qu'est-ce que je dois voir? Eh bien, il dit, regardez toutes ces myrtilles. Et tout d'un coup, ding, 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 il a vu des myrtilles partout. Vous voyez ce que je veux dire? Les myrtilles, on peut les voir si on est préparé à les voir. Si on est dans son délire, on ne voit pas. Et pourtant, c'est sous nos yeux. Eh bien là, Abraham va voir qui est ce bélier. La question, et je vais terminer comme ça. Qui est ce bélier? Je vous rappelle que Abraham attendait un agneau. Or, ce n'est pas l'agneau qui va venir en premier, c'est le bélier. Et pour moi, le bélier ici, c'est le symbole du Père. Dieu va nous montrer, le Père va nous montrer qu'il n'est pas celui qui réclame le sacrifice, il est le sacrifice. Et il va d'abord montrer qu'il se donne d'abord lui-même avant de donner son Fils. Et quand Jésus va aller sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Quiconque m'a vu a vu le Père. Autrement dit, cette image très occidentale, mes amis, d'un Christ, vous avez montré l'image de Jésus qui est complètement seul sur la croix. Voilà. Ça, c'est une image complètement occidentale. Vous voulez que je vous montre l'image que les orientaux ont? Allez, on y va. Tu grandis l'image, s'il te plaît. Regardez comme cette image est extraordinaire. Vous avez Jésus crucifié, le Père crucifié, et juste à la joue du Père, vous avez une colombe, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit qui est là. Une autre image que j'aime beaucoup et qui se trouve dans ma région, voilà, c'est celle-ci, regardez. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et souvent, on ne comprend pas cette parole. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Pierre, il faut que tu m'expliques. Comment est-ce possible que si Jésus est crucifié avec le Père quelque part, comment Jésus a pu dire, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il fallait, mes amis, que Jésus vive cette séparation de l'amour, pour que vous n'ayez pas à la vivre. Parce que l'enfer, c'est quoi? c'est être séparé de l'amour. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été séparés de l'amour ici, déjà dans leur existence? Eh bien, tu vois, mon ami, en étant séparé de l'amour, tu sais ce que c'est que déjà que l'enfer. On goûte déjà l'enfer quand on est séparé de l'amour. Alors Jésus devait assumer cette séparation de l'amour pour pouvoir ensuite nous reconnecter. Et surtout, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est le psaume 22, verset 2. Et je vous inviterai, ne laissez pas cette journée terminer, je n'ai pas le temps de la lire avec vous, mais je vous invite à lire le psaume 22. En fait, Jésus nous donne un indice. Vous voulez savoir ce qui se passe en ce moment alors que je suis crucifié? Psaume 22, parce que chez les Hébreux, il suffisait de citer le premier verset et tous les autres versets se déroulaient, parce qu'ils avaient mémorisé l'Écriture. Alors Jésus n'a qu'à citer le premier verset du psaume 22 et vous allez comprendre. Psaume 22, répétez après moi. Voilà. Qui est-ce qui me promet qu'il va le lire avant que le soleil se couche? Alléluia. Lisez le psaume 22, vous comprendrez, vous allez dire, « Waouh, Pierre, c'est trop fort. » Psaume 22. Et donc, le Père, si Jésus est sur la croix, c'est pour nous montrer qui est le Père. Et le Père nous l'a déjà montré à Abraham, au travers de ce bélier. Et une fois que le bélier a donné sa vie, eh bien, toute la thématique de l'agneau va venir. Vous allez retrouver l'agneau dans l'Exode. Mais il fallait d'abord que le Père donne sa vie. Une image du sacrifice, c'est l'ADN de Jésus. C'est l'ADN du Père, Jésus qui donne sa vie. Parce qu'il y a une théologie très très bizarre. Je sais, peut-être vous l'avez entendu. Ou paraît-il que quand Jésus a donné sa vie, le Père ne pouvait pas regarder Jésus. Le Père était en colère contre Jésus, etc. Mais mes amis, le problème du péché, mes amis, était tellement insoluble, tellement profond, tellement grave, que c'est un travail de la Trinité. Toute la Trinité s'est offerte. 2 Corinthiens 5, 19, Hébreux 8, 14. Si vous avez le temps, si vous êtes intéressé, lisez ces deux versets chez vous. Je les cite rapidement de mémoire. 2 Corinthiens 5, 19. Or, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Où était Dieu à la croix? En train de tourner le dos à la croix? Non, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est le sacrifice. Celui qui donne sa vie. Où était le Saint-Esprit? Hébreux 8, 14. Le Christ s'est donné, a donné son sang par la puissance de l'Esprit éternel. Autrement dit, qu'est-ce que nous voyons à la croix? Qu'est-ce que l'Église d'Orient voit? Vos frères orientaux voient? Ils ne voient pas qu'une personne qui serait venue assumer les choses pour les deux autres personnes. Il voit la Trinité. C'est un business de la Trinité, la croix, par lequel toute la violence du monde peut être annulée. Vous savez, il y aura beau avoir des politiques non violentes, il y aura beau le seul endroit où ma violence, où ta violence peuvent trouver une fin. Cet endroit, c'est la croix. Parce qu'à la croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont accepté de recevoir la violence du monde. La violence d'Israël, la violence des nations. Elle trouve une conclusion à la croix. Alléluia. Je vous invite à vous lever, mes amis. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Vous êtes venu avec quelqu'un de précieux ce matin? Oui. Est-ce que tu réalises la personne précieuse que tu as à côté de toi? Alléluia. Est-ce que tu réalises la personne précieuse que tu as à côté de toi? Alléluia. Ouais. Tu réalises? Il est où ton mari? Pas encore, t'en auras un jour. Hein? Ah, vous n'êtes pas encore marié. D'accord, bah, tu vois, ça reste valable ce que je viens de dire. Alléluia. Est-ce que tu réalises la grâce que le Seigneur t'a faite? Une maison vient peut-être d'un héritage, mais une femme sage, elle vient de l'Éternel. Ouais. Je voudrais que vous réalisiez les couples, que vous retombiez amoureux les uns des autres. Parce que l'amour, avant toute chose, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion, l'amour. L'amour se manifeste par des émotions. Mais à la base, nous décidons d'aimer. Et c'est pour cette raison que l'amour chrétien peut durer. Parce que nous pouvons décider. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous venons au Dieu d'amour qui, lui, va charger cette demande. Père, j'ai décidé d'aimer mon conjoint encore et encore. Aide-moi, Père. Et comme il est amour, il vient et recharge notre cœur de sa grâce. Est-ce que tu décides d'aimer à nouveau? Est-ce que tu décides d'aimer à nouveau? Amen. C'est le printemps, les amis. Ma bien-aimée. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de demander pardon, seuls les rois demandent pardon dans le christianisme. Seuls les princes demandent pardon. Si quelqu'un a besoin de se tourner vers quelqu'un qu'il aime, je t'ai blessé, je te demande pardon. J'ai mal agi envers toi, j'ai été dur avec toi. J'ai réclamé de toi un sacrifice. Ce matin, je réalise que c'est toi le sacrifice. Le seul sacrifice nécessaire, c'est toi. Il est le seul sacrifice nécessaire. Waouh. Alléluia. Vous ne pouvez rien offrir à Dieu qui ait de la valeur comme ce qu'il a offert lui-même. Le Père n'a pas envoyé Jésus sur la croix, ils y sont allés ensemble. Et le Père s'est donné. Être Père, les amis, il y en a qui sont des Pères ici. Être Père, c'est un Père sacrificiel. Je suis désolé les gars, j'ai pas d'autre message pour vous les pères. Quand on était jeunes, on était des jouisseurs. Mais parce que Dieu nous donne des enfants, on apprend à être des pères sacrificiels. Certains sont devenus pères en voulant prendre quelque chose à la femme. Mais ils sont piégés dans ce magnifique piège. Dieu est beau et nous tombons dans ce piège de l'amour. C'est Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, hein, la philosophe qui a dit « La beauté de Dieu, c'est ce piège dans lequel nous tombons, par lequel nous devenons amoureux de lui. » Alors je vous invite à tomber dans ce piège. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, ce matin, je t'invite à ouvrir grand ton cœur et à donner toute ta violence à ce Père qui ne va pas la refuser, qui ne va pas se fâcher. Le Père n'est pas fâché après toi. Il est juste compatissant. Il a en haine ce qui te détruit, mais toi, il t'aime. Ce Père, il hait le péché parce que le péché détruit l'humanité. C'est pour cette raison qu'il est venu lui-même assumer cette réalité à la croix, à travers le Fils et du Saint-Esprit. Et je voudrais juste, alors que nous avons les yeux fermés, demander à ceux qui se sentent touchés, pas seulement dans leur émotion, mais quelque part dans un quelque chose qui doit changer dans ta tête concernant l'image de Dieu. Peut-être tu as une image encore d'un Zeus Peut-être aussi, toi, tu as de la violence. Peut-être tu dois t'approcher. Et je voudrais t'inviter devant. Mais avant que tu viennes devant, je voudrais te demander pardon en tant que père. Pour l'image désastreuse que j'ai pu te donner. D'un père violent, d'un père Zeus, d'un père jupitérien. Qui n'ose pas montrer son affection et qui casse ses enfants dans la journée. Parce qu'on t'a dit, on t'a fait croire ce mensonge. Qu'être un père ça pleure pas, un père ça montre pas sa faiblesse. Un père doit être dur pour faire des enfants forts. Mais chaque fois qu'un père dur a voulu faire des enfants forts, il a fait des enfants timides. Il a fait des enfants effrayés, des enfants craintifs. Que si un jour ils arrivent vers Dieu, ils vont vouloir appeler un Dieu Zeus. Et ils vont combattre pendant des années pour découvrir que Dieu n'est pas Zeus, mais qu'il est lui-même le sacrifice. Qu'il est un père de tendresse qui prend ses enfants dans ses bras. Je voudrais m'agenouiller devant toi et demander pardon pour les abus du passé. Et que si tu veux, tu peux te venger. Tu peux prendre ta revanche. Tu peux venir et qui serais-je pour refuser ta violence? Moi aussi, je serai comme, je vais essayer d'être ce père comme dans Luc 15, verset 12. Je ne résisterai pas à ta violence. Pour mettre fin à ta violence, je prendrai ta violence. Alors si tu es dans cet état d'esprit, tu es en colère par rapport à ce que je représente, eh bien, vois un père qui a fléchi le genou ce matin et qui reconnaît l'offense que tu as faite. Il reconnaît ce qui s'est passé de terrible, cette image peut-être de ton enfance, d'un père fouettard. Et je t'autorise à venir te venger si tu veux ce matin. Mais alors que tu viens, je voudrais aussi que tu réalises une chose, c'est que si on veut être juste, il faut que tu saches que dans la manière dont tu me jugeras, il faudra aussi, toi, un jour, que tu sois jugé de la même manière. C'est ça, la justice. On ne peut pas vouloir avoir l'amour sans la justice. Tu comprends? S'il y a un cri d'injustice, alors, ok, viens, viens et venge-toi. Mais attention, j'attire juste ton attention. Dans la manière dont tu me jugeras, il faudra un jour que tu sois jugé, toi aussi, de la même manière. Alors soit tu viens pour me faire grâce, soit tu viens pour te venger. Mais c'est ton choix maintenant. Voilà, je vous invite à tout simplement venir. Je vais demander à l'équipe de prière à venir me rejoindre. Et on voudrait prier pour vous. Afin que vous rencontriez celui qui ne réclame pas le sacrifice, mais qui est le sacrifice. Alléluia. Vous nous permettrez de vous prendre dans nos bras, nous allons vous accueillir comme le Père a accueilli le cadet. Avant même que le cadet ait même eu le temps de se repentir, de faire sa repentance, le Père va l'accueillir avant même tout ça. Parce que toutes nos repentances, quelque part, elles sont très imparfaites. Seule la bonté peut nous conduire dans une vraie repentance. C'est l'expérience de sa bonté. On ne se repent pas pour obtenir la repentance. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une transaction, la repentance, par laquelle on obtient la bonté. La repentance, c'est le fruit de la rencontre avec la bonté. Alors, voilà, venez tout simplement, n'hésitez plus. Hein. et nous allons prier pour toi. Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Je vous invite tous à vous lever. Et cette réunion est officiellement clôturée, mais tous ceux qui ont besoin à ce qu'on prie pour eux, on aimerait se donner un temps justement de prière. Voilà. Donc tous ceux où vous n'avez pas besoin de recevoir la prière, vous pouvez aller à l'extérieur, on va garder les portes fermées, ou peut-être récupérer vos enfants. Mais on aimerait se donner un moment ici, un moment où le ciel est ouvert, où on va à la rencontre de ce Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Partout dans ce lieu, tous ceux qui ont besoin à ce qu'on prie pour eux, avancez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'équipe juste enlever les deux peut-être